Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
L'arbre m'a dit, si tu te sens seul, fais comme moi, ouvre grand les bras et laisse le monde te traverser. L'arbre m'a dit, pose ton oreille contre mon écorce, entends-tu notre cœur battre? L'arbre m'a dit, je suis né par hasard, mais la terre, les oiseaux et le rêve des hommes avaient besoin de moi. L'arbre m'a dit, prends-moi par la branche, je t'emmènerai au pays où rien ne bouge. L'arbre m'a dit, je ne peux pas marcher, mais j'ai mes oiseaux. Nous aussi, nous avons nos oiseaux.
Oui.
Je ne sais pas où ils sont dans la salle.
Ils sont dans la pièce. Ils volent partout.
Dans la pièce de l'autre radio où vous écoutez l'émission On lit quoi nous, l'émission de toutes les littératures jeunesse. Je suis avec Véro, bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Je suis avec Philippe qui fait la technique, bonjour Philippe, qui ne peut toujours pas parler mais qui hoche de la tête. Vous écoutez donc la 43e émission d'On lit quoi nous. Continue. Hein. Mm. Et on est très très fiers d'être toujours là.
Mais oui.
Voilà. Le petit passage que vous avez écouté tout de suite, c'est un extrait de l'album L'arbre m'a dit. Ce sont des poèmes de Jean-Pierre Siméon. Et le livre, il y a aussi des encres et pastels de Zahu, publié chez Rue du Monde. Jean-Pierre Siméon, c'est un poète qu'on aime beaucoup, qui est ancré à la terre, qui a un rapport aux arbres aussi.
Très longtemps qu'il écrit.
Qui est un poète, mais aussi un conteur, un dramaturge. Voilà, il a écrit plein de livres, donc si vous aimez cette poésie, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et notamment, il est publié chez Rue du Monde. On va parler de plein de livres, comme d'habitude.
Oui, comme d'habitude. Hein,
on en a plein, j'y en a plein. Vous avez une grosse pile, j'ai une grosse pile.
Voilà.
Ça va être super, vous allez voir. En tout cas, comme d'habitude, on commence avec l'album du mois. Enfin, l'album qu'on a choisi. Oui. C'est un album publié en 2018. Qui est un peu rock. On écoute ça et puis on en parle tout de suite après.
Waouh, c'est quoi ce son? C'est de la guitare ou mes oreilles?
C'est un peu des deux, mon copain!
Ah, faut arrêter!
J'avais un sifflement dans le tympan et que ça allait me rendre dingue.
Oh non! Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit?
Bah ça s'appelle un acouphène et ça ne partira jamais.
Quand ça fait pire dans tes oreilles.
Ah, ça fait bien bip, hein.
Ah oui.
Hein, ça renvoie.
Ah oui, oui.
Ah voilà, une émission qui commence bien, ça fout la pêche.
Ça a bien nettoyé comme un coton-tige.
Voilà, vous écoutez, vous avez donc écouté Captain Parade. Captain Parade, c'est le groupe qu'on va mettre à l'honneur dans cette émission. Donc préparez-vous, hein. Chaque morceau sera comme ça.
Vous pouvez vous lever, sauter les uns sur les autres.
Exactement, les enfants, vous n'hésitez pas. Oula, j'en perds mon casque. Là.
Bah, oui,
vous n'avez pas vu la scène, mais hop, c'était très punk. Voilà, tac. Donc ça s'appelle Captain Parade. Ce morceau, il est tiré d'un album qui s'appelle Le Pogo des Marmots, dont on va écouter le titre éponyme tout à l'heure. C'est un album publié en 2018 et comme vous l'avez entendu, c'est un combo un peu rock, hein, ça envoie bien. D'ailleurs, il y a des petits. Je trouve que ça ressemble un petit peu à Didier Vampas ou
oui.
dans cette énergie-là,
oui,
un
oui,
petit
c'est
peu.
Vrai, ouais. Ils ont de la chance, les marmots, n'empêche.
Ouais, c'est bien quand même,
ah,
ça
des
envoie.
Trucs comme ça.
Là, on a. En fait, c'est un trio. Il y a Laurent Parado en auteur et compositeur, et puis qui fait la basse et le chant. Il y a Julien Biro à la guitare et Mathieu Guérino à la batterie. Et ça envoie, franchement, pour avoir regardé quelques vidéos des concerts. C'est...
Ah oui, en plus.
Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Ça pète un peu, tac. Donc voilà, donc ça va nous accompagner tout le long de l'émission.
Bah oui.
Ça va nous mettre pêche
mais
et
oui,
tout, hein. Ça
oui,
fait du bien.
Mais oui.
Allez, on va commencer à parler un petit peu de livres. On va commencer comme d'habitude avec les plus petits. Et j'ai choisi deux ouvrages qui sont assez poétiques. Le premier, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, c'est vous savez, la collection Mon petit livre sonore chez Didier Jeunesse.
Oui. Très délicate, très belle.
Ce sont donc les petits livres avec des puces qui nous, qui permettent à l'enfant tout petit d'écouter lui-même sa musique. Mmh. Et le dernier paru, ça s'appelle « Je découvre les comptines du Maghreb ». Et donc c'est bien parce que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir, des comptines françaises. Alors, pour tout dire, c'est des comptines qu'on trouvait déjà dans les livres CD.
De Didier.
Exactement. Et là, c'était tiré des comptines de l'Olivier.
Là, c'est des petits extraits, j'imagine.
Et c'est là, ce sont des extraits de 20 secondes, effectivement.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et notamment, j'ai retrouvé une comptine que je connaissais dans les comptines de l'Olivier qui s'appelle « Plouf Tizan Tizan ».
Oui, je vois ça.
Ouais. On écoute ce que ça donne.
Plouf Tizan Tizan, Samani Mawzan. تسميم تسماميم صادينا كاوكاو صادينا كاوكاو
Voilà, là, c'est un petit extrait, c'est évidemment...
C'est assez connu, d'ailleurs,
Oui, c'est une comptine qui est connue, hein, c'est
ouais.
vrai. Et en tout cas, dans les pays arabes et kabyles. Et ces cinq comptines, justement, c'est cinq comptines qui sont soit en kabyle, soit en arabe. On a Poufou Tizan Tizan, Minga Touri, Atas Atas Amimi, Ikaya Sizan et Nini Yamoumou.
Voilà. Oui, Nini Yamoumou.
Voilà,
ah.
que vous ne connaissez pas, mais voilà. Et franchement, c'est toujours très, très agréable de les retrouver dans cette collection-là. En plus, là, cet ouvrage, il est illustré par Magalia Tiogbe, dont on aime
oui.
vraiment bien le travail. Celle notamment qui fait les imagiers chez Amatera.
Amatera, j'allais dire.
Exactement. Ouais. Donc voilà, j'avais envie de mettre un petit peu d'ambiance du sud.
Ouais,
ça fait du bien.
Joyeuse.
Restons dans la musique et puis aussi dans la poésie, qui fait le lien avec Jean-Pierre Simon tout à l'heure. Je voulais vous parler d'un ouvrage qui est un petit peu particulier. C'est un ouvrage, mais pas que, c'est aussi un CD. C'est un livre qui s'appelle Pompon, Herbe de rosée et autres haïkus. Mmh. Ça a été fait par la compagnie Minuscropique et publié chez l'éditeur Trois Petits Points. Alors la compagnie Minuscropique Art et Tout Petit, c'est une compagnie qui est spécialisée justement dans l'initiation à l'art et comment on le transmet aux tout petits, et ils proposent des petites formes chorégraphiques et musicales. Donc ils font de la formation pour la petite enfance, ils font aussi des spectacles directement pour les enfants. Et Pompon, donc ce livre disque qui est en fait c'est un petit boîtier cartonné, et puis quand on l'ouvre on a deux petits ouvrages qui vont se déplier en accordéon. En
très
page
coloré.
Cartonnée, très colorée, qui correspondent à chaque fois à une thématique. Alors c'est comme ça fait référence au haïku, il y a un côté très nature. Voilà, qui est présente. Quand on regarde les titres, ça s'appelle « Fleurs de parapluie »,« Herbe de rosée »,« Saut de poisson rouge »,« Renard délicat
wow. »,«
Pic vert musicien ».
On dirait des parfums. «
Blague d'escargot hein, », ça marche aussi. Hein,
blague d'escargot, peut-être pas. Parfum.
C'est pas mal comme parfum, blague d'escargot. J'ai « Regard de grenouille » aussi, si vous voulez. Ou grillons en fanfare.
Ah.
Voilà. Et à chaque fois, donc on a cette petite comptine qui va être dite ou chantée et accompagnée d'une espèce de haïku musical aussi, on pourrait appeler ça comme ça. Ce qui fait qu'on est vraiment mis dans l'ambiance. Donc c'est évidemment pour les tout petits, mais c'est aussi pour les beaucoup plus grands. Il y a un petit côté très universel en fait dans l'objet.
Il y a des sons naturels aussi.
Non, c'est
de la musique.
C'est accompagné vraiment par de la musique. On a d'ailleurs un petit extrait. On va écouter le saut de poisson rouge, si vous voulez bien.
Je veux bien, oui.
Saut de poisson rouge. Cache-cache au miroir de l'eau. Soudain fait coucou, coucou, coucou.
Voilà.
Profond.
C'est beau, hein? Alors, celui-là, il est très dépouillé. Il y en a d'autres qui sont plus musicaux, où il y a une guitare. Où il y a... Là, on le voit, hein, le saut.
Ah oui,
navire,
oui, complètement.
Vous y étiez,
ouais.
Hein. Donc, c'est...
Ah, oui, c'est... oui, c'est comme de la contemplation, un peu.
Exactement. Bah, il y a le côté, justement, haïku, très, très contemplatif, très
et
japonais, n'est-ce pas
aussi.
Donc, voilà, c'est un CD qui fait 32 minutes. Un petit livre cartonné, donc on peut retourner dans les deux sens. Et,
c'est un bel objet.
Tout à fait. Et puis les trois petits points, c'est surtout un éditeur d'audio en fait qui fait des CD à la base.
J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, cet éditeur.
Oui, c'est eux qu'on fait le CD Boue et les trois ours.
Ah oui.
L'adaptation de l'album d'Elsa Valentin et qui l'ont fait en version CD. Donc,
donc
c'est peut-être pour ça que vous les avez déjà rencontrés.
Oui, oui.
Et voilà, c'était aussi l'occasion de parler d'eux et de les mettre en avant. On continue avec des albums. Oh, je sens que vous avez trouvé des beaux albums.
Eh ben oui, moi j'ai trouvé un livre qui ne voulait pas être lu. C'est son titre, le livre qui ne voulait pas être lu, de David Sundin, chez Robert Laffont. Ce livre porte bien son titre, hein, parce qu'il va tout faire. C'est un parent qui s'installe près de son enfant et qui compte lui lire une histoire du soir, de façon très rituelle. Et il va tout faire au fil des pages pour qu'on ne puisse pas le lire. Donc les lettres vont se mélanger, les pages se transformer en ailes et s'envoler. Le texte va se rétrécir, puis grandir. Des pages qui prennent feu aussi. Donc ce livre qui refuse de livrer son histoire est très beau. En plus, c'est un très beau livre, à l'ancienne, hein, des illustrations à l'ancienne, on dirait. Hein. Mais vraiment très très beau. Et une typographie aussi très riche, très variée. Le lecteur devra réveiller en plus ses talents de comédien pour le mettre en scène, parce que voilà, le texte est bien là, la typographie donne le ton aussi, mais il faut y aller quand même. Voilà, nous avons ici un bel outil interactif, hein, pour partager du plaisir autour d'un livre. Là, je vous lis, là, à un moment, il essaye de se dérober en mélangeant ses lettres. Donc, de nouveaux mots firent leur apparition dans le livre, des mots que personne n'avait jamais entendus auparavant. Il devint souvent très difficile de fire le livre. Il y avait par exemple un crapon qui fantait des fadarfouilles. Des darfouilles, vraiment, oui, des darfouilles. Jamais la grande personne n'avait vu livre aussi saugrenu. Et la grande personne jeta un coup d'œil à l'enfant pour voir s'il s'était endormi. Non. Bon, il n'y avait plus qu'à poursuivre la lecture. Donc, quand le chien eut azalé les troquettes, ils voulurent se louper de la monfiture. Ils eurent de la monfiture plein la fleurbe. S'agluffit, crotèrent et s'embarbouillèrent à cravate, pouf, truc, patap. Enfin bref, la grande personne, elle est très, très, très désarçonnée. Enfin voilà, très, très embêtée. Elle voudrait bien arrêter, comme parfois ça arrive à des grandes personnes. Mais l'enfant tient bon et... Ils vont aller jusqu'au bout du livre, mais c'est une sacrée aventure.
C'est long, hein?
Ah oui, oui. Et après, il y a des problèmes au niveau... Enfin, ils ont des courbatures au niveau de la bouche, enfin, des choses comme ça et tout. Ils sont obligés d'aller voir le médecin. Mais autrement, c'est bien. Hein, on passe un très, très bon moment. Hein,
Serait-ce un livre un petit peu loufoque?
Ah, complètement. Complètement.
Puis le travail d'illustration est très chouette aussi.
Il met un lapin au milieu, là. Un lapin, il pense que, bon, ben, voilà, on voit un lapin, c'est bon, quoi. On va se coucher, il n'y a aucun intérêt.
Il n'y a plus rien à dire.
Non. Un lapin, ben, si. Quand même, on continue, l'enfant veut absolument continuer. Le livre prend feu, vraiment, il y a même les R se transforment en U d'un coup, il y a un crocodile qui apparaît, mais c'est délirant, c'est drôle, et je pense que c'est une source de beaucoup d'échanges aussi avec l'enfant.
Et c'est fait par David Sundin.
Sundin,
qui est un auteur, et il est présentateur.
Merci Monsieur Simon, j'ai pas fait des recherches.
Il est présentateur de télévision suédois.
Non. Il est suédois.
Il est suédois. Il est comédien, il est présentateur de télé et auteur de livres pour enfants.
Et pourriez-vous me dire pourquoi Robert Laffont nous balance de temps en temps un petit livre comme ça?
Eh bien parce qu'ils avaient envie. Je pense que c'est C'est pas un éditeur qui est reconnu en fait pour ses albums.
Ben non.
Par contre, ils ont une petite collection.
De temps en temps.
Ils ont quand même des un parent jeunesse parce qu'ils ont la collection R.
Oui.
En roman.
Ouais.
Donc ils ont publié des choses pour les plus jeunes. Et du coup, je pense qu'ils sont tombés sur cette.
Bah oui. Puis ils le font. C'est bien quand on a envie, on le fait.
Hop. Je trouve ça bien. Moi.
Ah oui, c'est bien.
Voilà. Vous aviez un deuxième coup de cœur que je partage vraiment.
Là, là, là. Et puis c'est Adrien Albert. Alors Adrien Albert, moi j'adore.
Déjà.
À chaque fois que je le rencontre, voilà. il m'embarque dans un voyage.
Donc pour ceux qui débarqueraient, Adrien Albert, c'est Simon sur les rails, c'est Papa sur la lune et c'est Notre boucle d'or qui était sorti,
oui.
que vous aviez chroniqué, il me semble, à sa sortie.
Peut-être, je sais pas. Non.
Où on avait eu envie.
Le garçon.
Notre boucle d'or.
Oui.
Qui
oui,
reprend
oui,
la,
oui on avait envie. Oh, oui, il est particulièrement exceptionnel. Et on est à l'école des loisirs et ça s'appelle Chantier Chouchou Debout. Alors déjà c'est un grand livre carré qui m'embête bien ici parce qu'évidemment pour l'ouvrir on s'amuse bien donc je ne vais pas l'ouvrir. Et c'est un album qui déménage.
Ce serait dommage.
Qui déménage au vrai sens du terme. Ça pète de partout, une énergie folle dans laquelle on plonge avec délice. Il y a les couleurs, toujours ces couleurs claires et vives qui sont à elles seules un élixir de bien-être en plus. On est bien dans le bouquin malgré les tornades qui le traversent parce que une petite fille se fait amener chez sa grand-mère qui s'appelle Mémé Georges, je crois, je ne sais plus.
Mamie Georges.
Mamie Georges, voilà, c'est ça. Et sa mère l'amène en deltaplane pour la laisser une semaine chez sa grand-mère.
Ce qui n'est pas commun quand même déjà.
Non.
Mais il faut dire qu'elle est championne de deltaplane.
Oui,
hein, parce
ça aide.
Faire un concours.
Donc elle atterrit correctement, elle met sa petite fille chez la grand-mère, Mamie Georges. La petite fille a l'air assez contente quand même de rester chez sa grand-mère. Un petit peu inquiète, on sent un petit peu quand même, mais assez contente. Et la grand-mère a décidé de laver sa maison. Mais quand on dit laver sa maison, c'est laver sa maison. Ça va jusqu'au mur qu'elle démonte, qu'elle met dans la machine à laver. Tout y passe.
C'est une très grande machine à laver.
C'est très très grand, ouais, mais ça marche bien. Elle bourre tout et puis hop, pendant ce temps-là, il casse la croûte et tout. Enfin voilà, il devise tranquillement et le programme du lavage de maison fait son tour. Et la grand-mère, une énergie cette dame. Mais alors, la grand-mère reconstruit la maison, enfin remet la maison en place sans problème. Et puis la vie continue. De temps en temps, elle fait tourner la maison aussi pour amuser sa petite fille ou pour la faire sortir, la faire se réveiller aussi. Voilà. Et c'est à chaque fois des grands doubles pages, je dis pas de bêtises, pas toujours les doubles pages, non c'est pas, on passe tous les jours de la semaine, hein. Et des dessins vraiment, moi je vois l'image de la grand-mère, c'est pas du tout habituel, c'est un style même...
C'est à la fois très dépouillé,
oui,
et en même temps quand même plein de détails, plein de petits détails. Ouais.
Plein de détails et
c'est Adrien
des
Albert.
Personnages, voilà c'est ça, quelque chose de neuf, de nouveau, qui déménage vraiment... Donc voilà, c'est Chouchou la petite fille, j'ai oublié.
C'est encore foufou. Hein.
Ah bah c'est complètement.
Moi ce que j'aime beaucoup dans cet univers là, c'est que il a toujours des univers qui sont à la fois très classiques. Dans Simon sur les rails, c'est le lapin qui travaille dans son usine de marteau,
oui,
hein, mais
oui,
voilà, mais c'est
oui.
un vrai travailleur avec tout ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, il va vouloir retrouver son frère de l'autre côté de la ville, traverser toute la ville à pied. Enfin, il a ce mélange entre le réalisme et puis le loufoque qui est toujours hyper bien maîtrisé.
Tout à fait.
Et là, c'est ça, hein, c'est, il n'y a rien d'étonnant.
Moi,
en fait.
Franchement, ça me fait rêver. Cette machine à laver, j'adorerais mettre ma maison dans une machine à laver.
Après, elle est hyper forte hein, quand même. La mamie Georges, quand même, elle envoie.
Oui, c'est vrai. Il me faut la mamie Georges avec. Mais Chantier, Chouchou, Debout. D'Adrien Albert à l'école des loisirs. Si vous voulez passer un bon moment et bien vous envoyer en l'air, on va dire. Donc, voilà. Lisez-le.
Ah, je l'ai testé aux lectures.
Ah oui, cet après-midi.
Lecture à voix haute.
Mercredi dernier.
Oui, mais c'était même le mois dernier.
Le mois dernier.
Et franchement, il a eu un beau succès. Donc il marche très très bien à voix haute aussi.
Bon, après, le risque, c'est pas que les bambins récupèrent tout et mettent dans la machine.
Ils sont capables de faire la différence entre la réalité et puis un album. Mais oui, ils sont très intelligents.
Ah, d'accord.
Allez,
moi,
on poursuit avec un nouvel album. Une autrice qu'on aime bien aussi, qui s'appelle Pauline Kaliouzhny, qui nous revient avec un album qui s'appelle Maman, les petits bateaux. Ça vous parle, ça, Maman, les petits bateaux?
Oui.
Et vous allez me dire, c'est pas un album pour les grands, c'est plutôt un album pour les tout petits. Parce qu'effectivement, la comptine Maman, les petits bateaux, c'est une comptine plutôt qui s'adresse aux plus jeunes.
Oui.
Eh bien, Pauline Kaliouzhny est partie de cette comptine. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes?
Mais non, mon grand bêta.
S'il n'en avait pas, il n'avancerait pas.
C'est ça.
Voilà. Et ça, c'est la comptine de base. Sauf que à partir de cette comptine-là, elle a décidé d'aborder le thème de la pêche intensive dans les mers. Mmh. Et du coup, son livre, qui reprend toujours cette comptine, qui revient un peu comme une litanie comme ça tout au long de l'album, va être complétée par des petites phrases qui mettent l'accent justement sur tous les méfaits de la pêche et puis de tout ce qui va avec. Alors, les éditions Thierry Magnier, qui sont l'éditeur de Pauline, ont mis en scène une petite vidéo où elle présente son projet et aussi où elle parle avec une jeune femme de l'association Bloom, comment s'appelle-t-elle ? Avec Valérie Lebren, voilà, de l'association Bloom, avec lequel elle a travaillé pour faire cet album, où elle explique pourquoi elle a fait cet album. C'est ce qu'on va écouter tout de suite.
Je m'appelle Pauline Kalyuzhny. Je suis née à Paris, de père russe ukrainien et de mère française. Je suis diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et j'écris et j'illustre des albums pour petits et grands depuis 2009. En parallèle à mon activité d'autrice, je développe un travail de dessin, peinture, gravure, sur de grands formats représentant un monde végétal transfiguré. Et mon grand thème de création, c'est le lien de l'homme à la nature. Les racines de ce projet, c'est vraiment le sentiment d'impuissance et de colère face à l'écocide planétaire en cours, et en particulier dans les écosystèmes marins. Cela fait longtemps que je suis les activités de l'association Bloom, et nous avons beaucoup échangé autour de ce projet.
Je m'appelle Valérie Lebren, je fais partie de l'association Bloom, où je travaille en tant que chercheuse. L'association Bloom œuvre pour la protection de l'océan, et plus particulièrement, nous luttons contre la surpêche et contre les méthodes de pêche destructrices. Bloom défend un projet de société qui est extrêmement simple et extrêmement compliqué à la fois, puisque nous défendons la justice et l'égalité. Une justice environnementale qui préserve à la fois les ressources et les individus qui en dépendent.
Il a fallu faire des choix sur ce que nous allions aborder comme sujet. Nous sommes concentrés plus sur les scènes à thon et sur la pêche électrique, même s'il y a bien d'autres choses à dire sur les techniques ravageuses de la pêche industrielle. Ce n'était pas facile d'arriver à faire rire avec des sujets aussi graves, mais c'est très libérateur. Il nous faut des outils expressifs pour transformer les émotions de tristesse et d'impuissance en énergie, puis en action. L'expertise de Bloom a eu un impact très concret sur le scénario et le dessin. Cependant, mon livre est une production artistique et pas scientifique ou documentaire. Les outils que j'utilise sont la narration, l'imagination, la représentation, et Bloom a eu l'intelligence d'utiliser ce langage artistique pour faire passer ses messages dans le cœur des gens.
Si j'avais un message à faire passer aux enfants, c'est qu'il ne faut jamais cesser d'être curieux. Il faut toujours se demander pourquoi. Et quand on continue de se poser cette question-là, en fait, on développe un esprit critique. Et un esprit critique n'est vraiment épanoui que quand il passe ensuite à l'action.
Eh oui, effectivement.
Oula, c'est dit. Hein.
Ah non, c'est un vrai beau message. Alors, l'album est beaucoup plus simple, je pense, que l'interprétation qu'ils en font, puisqu'on a vraiment cette comptine qui revient, maman, les petits bateaux, est-ce qu'ils, s'ils avaient des jambes, voilà. Et évidemment, ils l'ont un peu détourné. Par exemple, ça donne maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Donc, on voit des scènes de pêche. Ont-ils une âme ? Là, on voit les scènes de pêche avec le truc électrique dont elle parlait. Moi, je ne savais pas que ça existait. Ça, en fait, ils mettent des grandes plaques électriques et les poissons viennent se griller dedans. Voilà. Et donc, c'est cette question, maman, les petits bateaux ont-ils une âme ? Mais non, mon gros bêta, s'ils en avaient une, ils s'arrêteraient là de pêcher, évidemment. Et franchement, le travail de Pauline Kalyuzhny, il est très, très beau, tout en nuances, toujours avec cette espèce de gravure. Enfin, ce n'est pas la gravure, d'ailleurs, mais ça donne cette impression de gravure. Et puis, des couleurs très, très franches qui viennent trancher avec ça.
Elle n'avait pas fait un livre sur mon lit, sur un petit garçon dans son lit qui ne veut pas en sortir sous une couette jaune, avec ce fond sombre comme elle sait faire, ces contrastes.
Je ne l'ai pas, celui-là, du coup.
Je regarderai.
Elle a fait Les Saisons, elle a fait Au Seuil, notamment. Et puis, elle a fait d'autres livres chez Thierry Magnier. Mais voilà, c'est vraiment un très beau livre. Et puis j'aime bien quand on associe comme ça des messages, mais d'une manière intelligente. Et ce livre-là l'est vraiment. On poursuit avec les albums, et cette fois-ci des albums pour les plus grands. Vous avez deux super beaux albums à nous présenter.
Ouais.
Et vous commencez par un grand nom de la littérature jeunesse.
Et Benjamin Lacombe qui revient. Benjamin Lacombe, c'est un magicien quand même au niveau d'un univers à chaque fois dans lequel il nous plonge un petit peu, alors on ne dit pas baroque, un petit peu gothique aussi, mais qui est là encore aussi. Mais c'est Cécité Malaga, un prénom, Cécité Malaga, son nom, de Benjamin Lacombe, donc chez Albin Michel. C'est une adolescente qui arrive un jour dans un cirque. Elle effectue un magnifique et dangereux numéro d'équilibriste dans les airs. À chaque fois, elle prend des risques incroyables. Et même notre cœur de lecteur palpite avec celui des spectateurs. Je vous avoue, j'ai vraiment eu peur parfois. À juste titre, nous en avons le souffle coupé. C'est Cécité Malaga qui, comme son prénom l'indique, ne voit pas. Et n'a plus de mémoire non plus. Mais son numéro est connu dans tout le pays. Avant le spectacle, nous tournons une page qui est... C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on est vraiment invité à vivre au plus près les sensations de Cécité. C'est un calque opaque qui ressemble à une sorte de rideau. Quand on le soulève, ça fait apparaître le spectacle de Cécité. À chaque fois, ce calque est là, où on devine vaguement et on pourrait imaginer que c'est comme ça que Cécité voit les choses. Donc le rideau, en le soulevant, fait apparaître le spectacle de Cécité Malaga. Et jusqu'au jour où la chute. Mais chute, ce n'est que le début de l'histoire. Donc je vous invite à venir abreuver vos yeux avec des illustrations sublimes et bouleversantes de Benjamin Lacombe et à lire son texte final sur le trésor de la vue qui nous donne un goût, le goût du trésor de la vie. J'ai voulu faire le trésor de la vue qui nous donne le goût du trésor. C'est bien.
C'est bien.
Et qui nous permet de reconstruire une existence. Là, je le cite, une existence différemment en renonçant à nos aveuglements. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Parce qu'on va savoir pourquoi elle est aveugle, ce que signifie la cécité pour elle. Il y a la page des pensées, il faut que je vous montre la page des pensées. Alors les pensées sont des fleurs, là c'est les pensées fleurs, qui moi, je l'ouvre quand ça va pas trop maintenant, parce que voilà, je vais y arriver. Là, voilà. Et on devine Cécité Malaga à l'époque où elle voyait, et elle est enfouie sous des pensées. Donc double page sublime de couleurs et presque de réalisme aussi, mais de rêve.
Surtout qui tranche beaucoup avec le rêve de la bombe qui est très sombre.
Ouais, voilà, on vient. J'ai l'impression d'avoir lavé mes yeux, d'avoir, je sais pas, là, la vue vraiment a une place centrale dans cet album. Et je n'aurais jamais pensé que Cécité eût un prénom si beau et si inspirant.
Vous savez quoi ? Je pense que c'est mon album préféré de Benjamin Lacombe.
Peut-être, tout à fait.
Je trouve que c'est celui où son texte et son image viennent se rencontrer de la plus belle des manières.
Oui, complètement. Il y a une complémentarité extraordinaire.
On connaît le talent, évidemment, de Benjamin
Lacombe. Il est toujours fascinant à regarder.
Mais là, je trouve que le mélange des deux, la pudeur du texte, la simplicité, sublime. Et puis ce qui est dit est vraiment magnifique.
Et puis le symbolisme de ses dessins, où les yeux, évidemment, vont avoir une place très forte. Et on voit son regard qui est... Elle danse au bord de son regard. Enfin, il y a du chaud. Voilà, c'est ça. Elle plonge dans son regard. C'est incroyable.
C'est beau. C'est très incroyable. Poétique, très très beau. Je suis complètement d'accord. On répète le titre de cet album magnifique.
Cécité Malaga, de Benjamin Lacombe, chez Albin Michel.
Merci. Et vous avez trouvé aussi un autre album pour grand.
Oui, c'est grâce à vous.
Qui est
ça.
Aussi très beau.
C'est grâce à vous.
Enfin, c'est grâce à eux surtout.
Oui, c'est grâce à eux aussi. C'est papa, regarde mon tableau, avec un point d'exclamation, d'Anaïs Brunet, qu'on est ravis de retrouver. On est chez Saltimbanque. Et dès la première de couverture, on est dans un univers bucolique, magnifique et familier à beaucoup de gens. Dans un rêve de jardin, avec des ponts japonisants qui enjambent l'eau verte, couverte de nymphéas en fleurs. Et au bout du pont, un enfant qui brandit avec précaution un dessin fait par lui. Un dessin qu'il court offrir à son père en traversant le jardin de rêve vers la maison rose au volet vert.
Ça me dit quelque chose, ça, quand même. ça me parle.
Et en plus, il est extrêmement familier dans ce jardin parce qu'il dit « Poussez-vous les lavandes, papa, papa, papa !» Donc une scène familière, habituelle, qu'on espère à beaucoup d'enfants, familiale. Il rentre dans la maison chaleureuse et sa famille l'accueille et s'extasie. Oh, « c'est très beau, mon lapin !» L'enfant, c'est Michel Monet, le fils de Claude, le plus grand peintre impressionniste du 19e. Et le peintre va trouver une place pour le tableau de son fils au milieu de ses œuvres. Donc Anaïs Brunet nous fait littéralement plonger dans l'univers de Monet. On plonge beaucoup là dans cette émission, mais c'est bien. On entre même dans son atelier grâce à un système ingénieux et merveilleux de découpe, avec des fenêtres et des portes qui s'ouvrent à notre curiosité. Les couleurs chaudes et douces nous accueillent et nous émerveillent. Nous faisons un voyage dans le passé, dans un univers de maisons chaudes, de jardins paradisiaques et de pièces aquatiques où l'on s'immerge avec délice jusqu'à la dernière page. Franchement, je suis comblée, séduite, J'ai le jardin de Monet dans ma maison.
C'est pas mal quand même.
Ah oui.
Non, puis Anaïs Brunet, c'est vrai qu'elle continue son travail vraiment, je trouve, magnifique. On l'avait découverte avec Belle Maison, il me semble, chez Sarbacane, son premier album. Et puis album après album, beaucoup chez Sarbacane, hein, Le Grand Poulpe, Belle Année.
Oui.
Je trouve qu'elle avait, elle développe un univers. C'est pas très étonnant finalement qu'elle arrive sur Monet, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Là, on sent qu'elle y est bien.
Ah oui, hein, mais on ne peut y être que bien. Là, parce que elle a extrait la substantique moelle de Monet, vraiment. Enfin, de son jardin, de son œuvre.
Oui.
C'est extraordinaire quand même.
Non, c'est très
et bien. C'est saltimbanque.
Oui, bah, saltimbanque qui aime bien faire le rapport avec, entre l'art et puis des illustrateurs modernes. En fait,
ouais.
Voilà.
Donc, ouais.
L'art, l'histoire de l'art, en fait. Donc là, ce lien entre Monet et elle, c'est vraiment très très beau. Quoi. Ben merci beaucoup, Véro, mais pour ces deux coups de cœur. Ben moi aussi, j'ai un coup de cœur. Et
Guillaume, il est revenu.
Ça mérite même une petite lecture. Et pour cela, il faut un générique coup de cœur.
Oh yeah.
Ce coup de cœur, il s'appelle Ma Cabane. Donc c'est Guillaume Guéraud, vous savez, l'auteur de romans pour ados notamment, qui a fait le texte d'un album. C'est pas son premier,
non.
Il en a déjà fait plusieurs. Et cet album est illustré par Alfred. Alors ça, vous le verrez pas, mais franchement, je vous invite vraiment à aller découvrir ses illustrations. C'est publié à La Martinière. Je l'ai construite entre deux arbres, dans la forêt, pas loin du jardin de mes grands-parents. Avec des morceaux de bois et des branchages et des fougères. Les morceaux de bois, je les ai attachés comme mon grand-père Yuri m'a appris. Parce que papy Yuri, avant, il était marin. Alors il sait faire des nœuds vachement solides. Parfois, je me dis que c'est un navire. Et la forêt autour, ce n'est plus une forêt, c'est l'océan des Caraïbes. Avec des tas de méchants voiliers anglais qui pointent leurs canons vers moi. Mais je ne crains pas de les affronter. Parce que je suis un pirate redoutable. Pour faire le toit, j'ai posé un vieux parasol dont ma grand-mère Olga ne se servait plus. Dessus, j'ai entrelacé des feuillages et des lianes et du lierre. Il n'est pas très imperméable. Hein. Quand il pleut beaucoup dehors, il pleut aussi dedans. Alors j'y vais seulement quand il fait beau. Même pour jouer à la tempête. Parce que mamie Olga ne veut pas que je m'enrhume. Parfois, je me dis que c'est un hélicoptère. Et la forêt autour, ce n'est plus une forêt. C'est les nuages de l'orage. Avec des tas d'éclairs pires que des missiles. Je fais des loopings incroyables pour les éviter. Et je m'en sors grâce au parasol que je transforme en parachute. Elle n'est pas très grande, mais j'y tiens debout. Et je peux aussi m'y allonger en entier. Par terre, j'ai mis des feuilles mortes et de la mousse pour que ce soit confortable. Dedans, il n'y a pas grand-chose, à part une belle souche qui me sert de fauteuil. Et pour décorer, j'ai accroché quelques fleurs sauvages au mur. Parfois, je me dis que c'est un palais. Et la forêt autour, ce n'est plus une forêt, c'est un royaume. Avec des tas de princes et de princesses qui me jalousent malgré leur richesse. Parce que mon domaine leur est inaccessible. Il n'y a pas de toilette, mais c'est pas grave. Je peux aller faire pipi derrière un arbre ou quoi. Papy Yuri dit que ça nourrit la végétation. Et comme il n'y a pas de chauffage non plus, l'hiver, je dois bien me couvrir. Parfois, je me dis que c'est un igloo. Et la forêt autour, ce n'est plus une forêt, c'est des montagnes de glace, avec des tas d'abominables hommes des neiges qui veulent me dévorer. Mais je suis un esquimau intrépide, je déclenche des avalanches pour les empêcher de m'attraper. Elle n'a pas de lumière, alors je n'y vais pas la nuit, sinon mamie Olga s'inquiète. Déjà, quand le soir tombe, ça fout la trouille, j'entends plein de bruits bizarres, des craquements, des grognements, même des cris. Alors je préfère ne pas traîner. Parfois, en plein jour, je me dis que c'est la nuit. Et la forêt autour, ce n'est plus une forêt, c'est un cimetière. Avec des tas de zombies. Mais j'ai des pistolets, hein. C'est pas des vrais pistolets, hein. C'est juste des bouts de bois qui ressemblent à des pistolets. Mais avec, je peux tirer sur les monstres. Ou je leur balance des bocs de châtaigne. Il n'y a pas de route pour y aller, ni même un sentier. Mais je sais par où il faut passer. Je trouve des champignons étranges dans le sous-bois, des toiles d'araignée qui brillent, des gros insectes inquiétants, comme si j'étais sur une autre planète. Parfois, je me dis que je me suis perdu. Et la forêt autour, ce n'est plus une forêt. C'est un territoire inconnu jamais exploré par personne, avec des tas de martiens et des requins. Mais je trouve toujours une formule magique pour les rendre aussi inoffensifs que des vers de terre, et aussi beaux que des scarabées dorés. Elle est toujours ouverte. Je ne lui ai pas mis de porte parce qu'une porte, c'est trop compliqué à fabriquer. Puis ça sert à rien. Dans un de ces murs, sur le côté, j'ai aussi laissé une ouverture pour faire comme une fenêtre. Je peux regarder le paysage à travers. Le paysage, c'est juste la forêt, hein. Mais je vois parfois des animaux, un jet, un chevreuil, des marcassins. Parfois, je me dis que c'est une simple rangée de broussailles. Et la forêt autour, ce n'est plus une forêt, c'est la savane africaine. Avec des tas de fauves et des éléphants et des zèbres et des girafes et des alligators. Et même des dinosaures. Je suis là et je les regarde sans qu'ils me voient. C'est ma cachette. C'est mon château. C'est ma soucoupe volante. C'est mon sous-marin. C'est ma planète sauvage. C'est mon laboratoire scientifique. C'est ma maison hantée. C'est mon champ de bataille. C'est ma salle de spectacle. C'est mes aventures les plus délirantes. C'est ma cabane. C'était Ma cabane, écrit par Guillaume Guéraud et illustré par Alfred. C'est beau, hein, tout
oui,
ça.
Oui, c'est beau.
C'est beau.
C'est beau et comment un enfant seul va saisir le monde, quoi.
C'est ça, comment l'imaginer.
Et l'inventer, le réinventer.
Voilà, c'est une cabane, c'est imaginaire. Alors c'est vrai que là, vous avez entendu le texte de Guillaume Guéraud qui est vraiment fort, qui est beau, qui est avec, tout en nuance, avec cette double portée. Il faut quand même qu'on vous parle un peu des illustrations d'Alfred. Hein. Alfred, c'est un auteur qu'on connaît surtout en bande dessinée. Hein. On l'avait découvert avec Pourquoi j'ai tué Pierre, qu'il avait écrit avec Olivier K. Il a eu Le Fauve d'or avec Comé Prima aussi en 2014. Et puis, il continue son travail depuis des années autour de la bande dessinée. Et Ma cabane, il revient à un album, parce qu'il en l'a fait, mais il y a très très longtemps. Et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait d'album pour la jeunesse. Donc c'est un vrai retour aux sources pour lui. Et c'est juste magnifique le travail qu'il a fait sur cette cabane, sur ces cabanes un peu inventées, sur le rapport justement entre l'imaginaire de l'enfant et puis... Et puis la réalité de la cabane dans les arbres.
Puis ça nous parle, c'est universel, ça nous parle à tous, quoi.
C'est ça. Donc c'est un très très bel album qui a un beau format, un format carré assez grand.
Il irait bien avec Adrien.
Il irait très bien avec Adrien. Bon allez, on va se remettre un peu de ses émotions avec un petit peu de musique. Ça va encore faire du rock, c'est toujours Captain Parade. Ça s'appelle le Pogo des Marmots et c'est parti.
Hé, les gars, depuis le début, on fait que crier dans notre disque. Et j'ai mal à la gorge, moi, maintenant. Et si on faisait une chanson calme pour une fois?
La vie est plus belle, mise en décibels, la BO de nos vies avec les BPM qu'on aime. La vie est plus belle, mise en décibels, c'est le tempo qu'il nous faut pour aller faire dodo.
calme.
Ça fait du bien. Ah, ça réveille, moi j'adore, ça réveille, ça réveille, ça réveille. C'était, non, c'était le pogo des marmots. Non, le temps calme, on se garde pour tout à l'heure, ça sera la dernière.
Ah, c'est le pogo des marmots, ça.
Eh oui, la feuille des fois n'est pas bonne, hein. Il faut quand même savoir être un petit peu vite.
Comment je peux y arriver, voilà. Moi, alors je voulais frimer, ben c'est raté.
Et voilà, c'est raté. Le temps calme, on l'aura tout à l'heure. Vous savez, c'est un petit hommage aux instits, vous allez voir, c'est très très drôle.
Ah, d'accord.
Allez, on finit cette dernière partie de l'émission avec la partie plutôt des romans. Mais avant de passer aux romans, moi je voulais vous signaler la parution d'un documentaire. C'est le troisième volume des Petits Illustrés de l'Intimité. On avait parlé des deux premiers qui parlaient du sexe masculin, enfin du sexe féminin, puis le tome 2, le sexe masculin. Eh bien, Mathilde Body et Tiphaine Dieu-Megard, aux éditions L'Atelier de la Belle Étoile, reviennent avec un troisième volume. Où cette fois, elles vont aborder les thèmes de des conceptions, de l'adoption, des familles, de la parentalité. Donc, on va parler effectivement de comment on fait un bébé, tout simplement, et de la PMA, de l'accouchement, de la gémellité, des différentes familles, de la parentalité, des droits de l'enfant. Enfin, plein de sujets comme ça annexes autour de la famille, de comment on fait un bébé. Et encore une fois, le regard de Tiphaine Dieu-Megard, qui est sage-femme, apporte vraiment une nouveauté. Enfin, ça fait vraiment une espèce d'ensemble. Il y a comme s'il y avait un petit coffret en fait, avec tous les trois dedans. Ça permet vraiment d'aborder de manière très simple avec ses enfants, en utilisant les mots justes. C'est toujours ce que j'aime dans cette collection-là, c'est que le vocabulaire est juste. Et voilà, on appelle une chose, et pas par un mot un peu...
Est-ce qu'ils abordent la question du genre?
Oui, bah, évidemment. Hein, oui. Depuis le début, il l'aborde.
Dans les autres tomes aussi, alors.
Oui. Il y a toutes ces thématiques-là sont abordées, notamment là, par exemple, il existe plein de familles, des familles qui se ressemblent et d'autres non, des familles nombreuses ou pas, des familles avec deux papas, deux mamans, plusieurs parents, des familles avec un seul parent, des familles sans enfants et des familles qui vivent ensemble, d'autres séparées.
C'est vraiment exhaustif. Voilà.
Et à chaque fois, on a des représentations de chacune de ces familles-là. Et ça permet, en plus, à chaque fois, ils font référence à soit des associations, soit comme ça. Donc c'est un livre qui
c'est
ouvre
très
aussi,
documenté,
voilà, qui ouvre sur sur la curiosité des enfants. Et c'est des sujets qui sont très importants à partager avec vos enfants. Voilà, donc le troisième tome à découvrir aux éditions de La Belle Étoile, comme les deux premiers. On va parler un peu de roman maintenant. Vous aviez un petit coup de cœur pour une série junior.
Ben oui.
Qui s'appelle Le Tour du Monde de la famille Rollmops.
Voilà, un grand plaisir à lire. Hein. La famille Rollmops, c'est un bout de famille Rollier qui décide de se recomposer avec un morceau de famille Mopsin. Donc ça donne la famille Rollmops. Et il y a 5 membres dans cette famille, très dynamique. Avec Léonard, 8 ans, qui est le narrateur. Qui va nous raconter leurs aventures à bord de la fourmi. La fourmi, c'est un van, Volkswagen, hein, faut le dire quand même, ça ressemble pas mal. Et avec lequel il teste l'essence verte inventée par Georges, le père, et Linette, la mère. Donc c'est un couple de scientifiques, les parents, et voilà, ils testent. J'ai lu donc Le Dragon de Shanghai et Grosses Fourmis en Amazonie. Et à Shanghai, ils sont perdus dans les dédales infernaux des autoroutes des métropoles chinoises, avec leurs GPS qui les abandonnent lâchement. Alors là, franchement, c'est assez désespérant. Et ils vont vivre des aventures incroyables jusqu'à ce que Avril, la fille de Georges, 14 ans au compteur, se fiche de terreur et vient d'apercevoir un vrai dragon dans les airs et un dragon bien menaçant. Et des fois, on se dit, mais ça disjoncte, quoi. Bon, c'est bon, quoi. On n'y croit pas. On retombe sur ses pieds
et ça
marche très, très bien. Ça se lit très bien. C'est drôle. C'est très illustré. Ça, c'est la nouvelle collection de chez Milan qui s'appelle 7 lieux et qui s'adresse, ils mettent, je sais plus, 7-9 ans. Enfin, bon, j'aime pas trop dire d'âge, mais il faut déjà avoir une petite maîtrise de la lecture.
Autonome,
voilà, c'est
voilà.
Ça.
Et puis après, et ça peut être plus âgé, puisqu'en fait, les textes sont vraiment drôles.
Oui, ils sont drôles, ils ont la pêche, et après, on part en Amazonie avec eux, et on espère qu'il y aura d'autres aventures autour du monde, comme ça.
Je crois qu'elles sont déjà annoncées, hein, qu'il y a au moins un troisième volume qui va sortir.
Qui va
et il faut souligner quand même le talent d'Anne Schmoch, donc, qui est l'autrice de de cette série-là. Anne-Schmoch, on l'avait découverte, pour ma part, je l'avais découverte chez Sarbacane avec sa série autour de la mythologie.
Ah oui.
Elle avait écrit Mémédusa,
oui,
Minus contre ça. Minos, Perséphone au téléphone, voilà, celle qui avait fait
cette... C'est des tons très légers et en même temps, ça fonctionne vraiment très très bien. Quoi.
Ouais.
C'est...
Et puis elle avait fait une série aussi chez Bayard, Maléfice sur Rome, qui marche bien et qui est en train d'être adaptée en bande dessinée. Là.
D'accord.
Donc voilà, c'est une
autre... Et Camille Roy, l'illustration,
qui fait du très beau travail.
Tout à fait.
Non, c'est une petite collection vraiment qui vaut le détour et à suivre.
Il y avait Ma Cabane, justement, apparemment, dans cette collection.
Oui, il y avait une autre série.
La Cabane. C'est La ça. Cabane.
Il y avait une autre série, effectivement. Mais je pense qu'ils vont développer comme ça des mini-séries qui sont susceptibles comme ça de faire des petites, donc des mini-petites séries.
Mais avec cette qualité, on est preneur. Hein.
Nous, on prend. Nous, franchement, on prend. Et bien... Un truc qu'on prend aussi, c'est des romans pour les un petit peu plus grands. Et notamment, si vous voulez de l'aventure, moi je vous conseille, alors c'est un livre qui est sorti il y a quelques mois, c'est sorti en mars, mais je vous conseille fortement de lire Mal d'Aurore de Philippe Le Chermeyer, publié chez Flammarion Jeunesse. Alors Mal d'Aurore, vous connaissez peut-être ce titre, c'est un titre qui fait référence à un titre de Lautréamont.
Lautréamont, oui, c'est
voilà.
Ça,
et Philippe Le Chermeyer explique qu'il a aimé, alors c'est un petit hommage, mais c'est surtout qu'il aime la sonorité du mot.
Mal d'Aurore.
Qui, on a l'impression...
C'est trop beau. Entre horreur et aurore.
Voilà, c'est ça, et puis le mal, voilà. C'est un nom déjà qui est de héros, on sent bien que c'est un monde. Voilà. Et donc cette histoire, en fait, on va suivre plusieurs enfants, cinq enfants qui... vont devoir fuir quelque chose. Ils vont parcourir le Grand Est européen jusqu'à l'Asie. Alors, c'est d'actualité, mais malheureusement, ça ne l'était pas quand il l'a écrit. Mais une grande partie de l'histoire se passe en Ukraine et en Russie. Bon, c'est l'Ukraine et la Russie de 1910, qui était un pays divisé. Philippe Le Chermeyer explique que quand il l'a écrit, il ne pensait pas que ça le serait à nouveau.
Donc c'est un roman historique, quelque part.
Alors,
c'est 1910,
quoi. Il y a une base d'histoire voilà, qui est réelle, sur laquelle il s'appuie, mais qu'il a un peu détruit.
Ouais, bah oui.
Ensuite, il s'est inspiré aussi des grands trains, vous savez.
Ah, transsibérien.
Oui, mais aussi, il y avait un train de Trotsky, en fait, où il vivait comme un seigneur. Et donc là, le grand méchant vit dans
Trotsky
ce train.
Trotsky vivait comme un seigneur.
Bon, c'est après, c'est plein de choses. En tout cas, c'est tout un univers comme ça qui est décrit, qui est un vrai récit d'aventure absolument génial. On est pris dedans. Et ça se lit comme un roman de Dumas, dans le sens où c'est écrit en feuilleton. Ce qui fait que chaque fin de chapitre, il y a un petit cliffhanger qui fait qu'on va être en attente du suivant. Mmh. Et puis comme ça, on avance dans l'histoire. Voilà, donc il y a cette référence.
On rêve que d'aller se coucher le soir.
Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un très très beau roman dont la suite va sortir à la rentrée future, le tome 2. Donc on a vraiment hâte parce que c'est...
Je dis peut-être de grosses bêtises, mais c'est Le Chermeyer.
Alors Philippe Le Chermeyer, on l'est plus connu pour ses albums.
Avec
c'est
du
ça.
Texte
et c'est lui, qui a fait le texte de Princesse Inconnue et Oubliée avec Rebecca d'Outre-mer.
Oui.
Donc il faisait notamment ses grands albums chez Gauthier Langros pendant de nombreuses années. Fait. Et puis, effectivement, c'est son premier roman, c'est sa première saga de roman, en tout cas long. Et franchement, c'est une vraie belle réussite. Mmh. Donc, si vous voulez de l'aventure, je vous invite vraiment à aller découvrir ce Mal d'Aurore de Philippe Le Chermeyer chez Flammarion. Il nous reste encore un petit peu de temps et vous avez...
J'en ai deux à vous présenter.
Prenez votre temps, on est bien.
Ah, génial. Alors, Sous-sol, de Martine Pouchin chez Sarbacane. Allez, je vous fais le pitch du début. Dans le monde d'avant, la glace avait continué à fondre, les forêts à brûler, les tempêtes à sévir et le niveau des eaux à monter. Les populations du sud, décimées par la guerre, la famine et l'absence d'eau potable, migraient massivement vers des terres plus clémentes. Les nordistes les repoussaient. Jusque-là, il n'y avait plus de politique, mais des dictateurs dotés de milices grassement payées. Le chaos et la guerre civile régnaient quand le dirigeant du plus puissant pays du Nord déclara la guerre à la Chine. Sans sommation, 6 bombes atomiques anéantirent les plus grandes villes chinoises, faisant 1,5 million de morts. J'espère qu'on n'a pas perdu tous les auditeurs là. La Chine répliqua en larguant par avion des virus inconnus et mortels sur les plus grandes agglomérations nordiques. Presque tous les habitants des pays du Nord moururent. Depuis ces jours funestes, la nuit règne sur la planète. Seuls les élus ont survécu. Ils sont appelés à repeupler le monde le moment venu. Voilà, voilà, voilà.
Aucune référence avec des choses qui sont passées.
Non. Et après tout ça, la famille Leslie, son père, sa mère et sa sœur Amy vivent dans le sous-sol de leur maison, terrés comme des taupes, en attendant que cela s'arrange en haut, comme le font tous les survivants. Ils sont très religieux et s'en remettent à Dieu en faisant bien attention à suivre tous ses commandements. Le père est un véritable patriarche, comme on les aime, c'est de l'humour, hein, qui a bien sûr toujours raison et qui domine sa famille de façon de plus en plus fanatique. Le problème, c'est que cela va durer des années et que les membres de cette famille vont sombrer petit à petit dans la folie. Leslie a pourtant beaucoup d'imagination et des capacités à se protéger et à s'évader au sens propre, comme au sens figuré. Et alors, la vérité serait peut-être en dehors du sous-sol ? Comme disaient Mulder et Scully, la vérité est ailleurs. C'est ça. C'est passionnant.
C'est très inquiétant.
Passionnant.
Ça a l'air en tout cas.
Très beau personnage de Leslie aussi. Attachante et drôle. On voit grandir en plus, naïve et vive, touchante et suscitant l'admiration. On la suit avec joie et angoisse dans sa quête de sens. Alors vous parliez de Cliffhanger, moi je parle de Paige Turner, hein, je me la pète aussi un petit peu là. Mais c'est ça, on veut savoir, on veut absolument savoir et on n'est pas déçu du tout.
Bah Martine Pouchin, elle écrit très très bien. C'est vrai qu'on, depuis quelque temps, là, quand elle est, depuis qu'elle est chez Sarbacane, avec, moi j'avais adoré La Ballade de Schenoper, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte-là. Oui, oui. Et puis Zelda la Rouge aussi, enfin voilà, ça fait partie des... Mais là, elle nous emmène dans un univers qu'elle...
Alors c'est noir à souhait, mais ça m'a attirée. Mais je trouve qu'en plus, ça exorcise toutes nos peurs aussi. Et ça fait du bien. C'est terrible ce genre de choses, comme celle qui va venir. Ça fait beaucoup de bien. Enfin, moi, ça me fait du bien, c'est ce genre de lecture.
Vous lâchez un peu avec ça.
Bah complètement. Complètement.
Ouais. C'est pas vous, c'est pas votre.
Voilà. Après, il y a un très léger humour qui permet de tenir aussi, donc c'est pas mal. Là, le livre.
On rappelle quand même les références dessus.
Donc c'est Sous-sol, Martine Pouchin, et chez Sarbacane, c'est un exprime. Qu'est-ce qu'elle a mis comme musique avec ça ? Elle a mis Ennio Morricone, Kimai. Maëva Méline, je ne connais pas. Où est la vraie vie ? Michel Jonas, Les Fourmis Rouges, c'est ma génération, mais je vois bien ce qu'elle veut dire. Get Lucky de Daft Punk, quel humour. Musique basse, Didi de Préto, je ne connais pas musique basse. Et Purcell, L'air du froid.
C'est très varié.
Bref, voilà.
C'est très varié.
Très, très varié. Et Paris Edwick. Paris Edwick, chez Gulfstream. J'ai mis Gulfstreamy, c'est n'importe quoi, parce que c'est la collection Spooky qui vient d'arriver. C'est un premier roman. C'est Aurélie Gerlach, je ne sais pas comment on dit. Et c'est illustré par Scorp parce que l'illustration de couverture m'a attirée. Hein. Je suis une humaine comme les autres.
Fluo.
Voilà, c'est fluo. C'est fluo. On sent qu'il va y avoir des choses qui vont nous chatouiller là-dedans. Et un roman avec des zombies. Alors, c'est pas mon truc d'habitude. Hein. Et en plus, alors, mon truc, c'est quand ça se passe à Paris. Généralement, on me dit Paris, voilà. Et j'ai adoré. D'abord parce que c'est drôle, ensuite parce que c'est palpitant, et enfin c'est un beau reflet de notre société de consommation. Donc Naomi Swan, c'est une actrice influenceuse dont l'intelligence est entièrement dédiée à son apparence. Elle est égérie de la crème de beauté Selenium et participe au lancement du produit lors d'un événement mondain typiquement parisien avec tout ce que la profession contient d'acteurs superficiels et tendances. Mais la fête tourne au drame, lorsque les invités se transforment en monstres décomposés, assoiffés de sang et de chair humaine, et infectent toute l'assemblée, ou presque. Donc Naomi a réussi à se réfugier dans un débarras avec deux autres personnes, Jude, activiste environnemental, infiltré dans le but de dénoncer les produits Selenium, et Tim qui se trouve sur place pour d'obscures raisons familiales qu'on comprendra beaucoup plus tard. Et les trois jeunes gens cherchent une solution pour s'échapper du ghetto que forment le 5e, le 6e et le 7e arrondissement de Paris. Complètement fermé, gardé par des snipers. Il est hors de question que des gens sortent de ce... parce qu'ils vont infester les autres. Malgré leurs divergences, les trois héros vont se soutenir, développer une énergie et un courage impressionnant devant le danger. Ce qui est intéressant et facile à lire, c'est vraiment on glisse dessus. Enfin, on glisse pas dessus, on rentre dedans et voilà, on continue. C'est constitué de plusieurs voix, Naomi, Jude, Tim, entrecoupées de posts Instagram, Twitter, reflétant parfaitement la dureté des réseaux sociaux. Je me suis surprise, vous allez vous moquer de moi, hein, mais il y a les commentaires qui sont donnés à la fin d'un truc Twitter et c'est marqué « Appuyez pour plus de commentaires ».
T'as appuyé ?
J'ai appuyé.
Ah oui. Ah bah, effectivement, je vais me moquer de vous.
Hein. Oui, vous pouvez. Donc le personnage de Naomi est désopilant, au cœur du chaos. Elle se soucie toujours de son teint et de son look qui vont être bien malmenés pourtant, parce qu'elle va morfler. S'ajoute à ce trio un mouflon nommé Noblesse Royale, que je vous laisse découvrir là, parce que vous m'en direz des nouvelles. Hein. C'est vraiment un vrai mouflon, hein. Un truc qui broute et tout. Enfin bon. C'est décoiffant, c'est détonnant, c'est ébouriffant, c'est horrifiant, c'est très drôle. Sombrement drôle, mais très drôle. Voilà.
Mais Aurélie Gardec, on l'avait découvert avec la série Lola Frismut chez Gallimard. Il y avait eu deux tomes qui étaient très très bien, alors qui sont peut-être passés un petit peu ado, en fait. Ouais. Ouais. Et depuis, elle a fait une série pour les plus jeunes qui s'appelle Anna Z42.
Oui, c'est
donc le Z, il est toujours là. Le côté zombie, je pense qu'il est toujours là. Et donc cette nouvelle collection, Spooky, c'est le problème.
C'est chez Gulfstream. Et apparemment, c'est le premier titre
de la collection.
De la collection, et c'est le premier roman d'Aurélie.
Non, alors non. Non, c'est pas du tout le premier roman d'Aurélie Gardec.
Et ben voilà, ma source, elle est pas bonne.
Donc ça va être le premier roman de la collection.
De la collection, c'est ça. Il y a eu mélange.
Ça, par contre, je veux bien y croire.
Voilà.
Mais ne me la faites pas, c'est pas le premier roman d'Aurélie Gardec.
Mais non, je sais bien, j'y arriverai jamais.
Voilà, en tout cas, ça fait beaucoup de bas, ça fait du bien un petit peu.
Ouais, ouais.
Petit côté Walking Dead version Fashion Week.
Ouais.
Parce que c'est pas la Fashion Week, c'est la Z Week, c'est ça.
Un
peu de zombies, ça fait du bien. Puis ça fait le lien avec Guillaume Guiraud qui avait écrit une super histoire de virus bien dégueulasse qui.
Alors moi je mélange parce qu'il a tellement écrit des histoires.
Ouais, il aime bien les trucs comme ça.
Comme ça, mais oui.
Ça fait longtemps qu'il écrit plus des choses comme ça. Maintenant il écrit des choses douces et tout.
Oui. Bah, il a exorcisé à mort.
Peut-être.
Qu'à le dire.
Allez, on a le temps de parler d'une dernière petite bande dessinée, la bande dessinée du mois. Et j'ai choisi pour cette bande dessinée la toute mignonne Poussin et Renard de Sergio Ruzier, publiée aux éditions La Joie de Lire. Alors cette bande dessinée, c'est une petite BD qui m'a vraiment fait, qui m'a touché. Il y a 6 petites histoires où on va suivre les aventures donc de Poussin et donc de Renard. Poussin, c'est un petit poussin qui est, ma foi... comment dire, un petit peu envahissant. Hein, il a un petit côté un petit peu collant. Si vous vous souvenez de Dis ours tu dors, vous voyez ces albums de...
Oui, je vois bien. De Vadel.
De Benjamin Davis.
Ah, c'est Benjamin Davis, oui.
Eh bien, c'est un peu le canard dans Dis ours tu dors. Voilà.
Ah oui, c'est pénible ça.
Et le renard, lui, il est très zen en fait. Il est plus zen que l'ours dans... Dior Studor.
Il est patient.
Voilà. Et puis en même temps, je pense qu'il est content d'avoir un ami qui vient le voir déjà. Mmh. Allez. La première scénette, en fait, donne bien l'esprit. Je vais vous la lire vite fait. Ça s'appelle La Fête. Toc, toc. C'est moi, Poussin. Bah, je sais bien que c'est toi, Poussin. Je te vois. Et qu'est-ce que tu fais? Je lis ce livre. Bah, comment peux-tu lire ce livre alors que tu es en train de me parler? Tu as raison, Poussin. Je lisais ce livre et je vais m'y remettre dès maintenant. Bam ! Toc, toc. C'est encore moi, Poussin. Puis-je utiliser ta salle de bain ? Bien sûr. Merci, Renard. C'est très gentil de ta part. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Le renard lit, là, pense-toi. Tic, tac, c'est l'horloge.
Il est tranquille. Tic, tac, tic,
tac. Tout va bien, Poussin ? Crash, boum, splash. Je vais entrer, hein. Mais... qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu vois pas, je fais la fête avec mes amis, dans ma salle de bain. Oh, je vois, allez, allons-nous-en, les gars. J'ai l'impression qu'il n'avait pas très envie de me prêter sa salle de bain. Voilà. Bon,
il faisait la fête dans les toilettes, quand même.
Non, salle de bain. Il y avait les toilettes aussi.
Oui,
bon, il en a mis partout.
Hein, oui, ben ça, on en a. Ouais.
Donc, c'est ce petit ami, ces petites aventures qui vont se passer entre les deux. C'est à la fois drôle... c'est à la fois tendre, voilà, ce petit poussin qui est un brin sans gêne, qui parle beaucoup,
qui est un peu saoulant, quoi.
Ouais, bah, on pourrait penser qu'il est un peu saoulant, et puis au final, on s'aperçoit que y a quand même une complicité entre les deux personnages qui est vraiment là, Et puis peut-être que si Poussin n'était pas là, bah Renard il s'embêterait un petit peu.
Bah, hein,
donc je trouve que c'est 6 petites histoires qui sont toutes mignonnes, vraiment que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir sous la plume de Sergio Ruzier que je ne connaissais pas.
En tout cas, ils sont craquants. Hein.
Ouais, c'est deux personnages vraiment craquants. Alors, ça s'adresse vraiment pour les plus jeunes. Hein. Ça peut être lu comme un album, en fait, à partir de 4-5 ans. Et puis après, en autonomie pour les plus grands. Mais voilà, ça me faisait plaisir de vous présenter.
Elle fait souvent des BD, La Joie de Lire ?
Eh bien, elle en a fait pendant un sacré bout de temps avec des collections un petit peu plus grandes, format BD classique, franco-belge. Et puis là, c'est vrai que c'est un format un petit peu différent. Et puis, ça fait plusieurs qu'elle sort dans des formats comme ça, un petit peu plus libres, où il y a un peu plus de pagination. Et je trouve que ça lui va bien. Entre albums, qu'elle sait faire depuis des années, et puis bande dessinée, je trouve que c'est un joli format. Donc voilà, c'était une belle façon de clôturer cette émission. Véronique, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette émission. On remercie évidemment Philippe à la technique qui est toujours présent, toujours, hein, qui fait des enchaînements de folie.
Ouais,
c'est,
oui.
Hein, c'est toujours un tac, tac,
salto arrière avec ses boutons, c'est incroyable.
Parce que des fois, il faut rattraper un peu nos bêtises. Voilà. Nous, on va se quitter évidemment en musique. On va retrouver nos Captain Parade. Alors là, cette fois-ci, c'est un temps calme.
Hein, voilà.
Et c'est un petit hommage à tous les instits ou alors même les parents qui utilisent cette formule. Tu veux pas faire un petit temps calme? Voilà.
Oui.
Bon, on va voir que ça marche pas trop. Nous, on se retrouve pour la dernière émission de l'année, c'est le mois prochain.
C'est ça. Hein,
et puis après, on partira en vacances, comme tout le monde.
Mais oui.
Voilà, on en profitera. Bon, en tout cas, on vous souhaite de très bonnes lectures. Voilà, un beau début d'été, parce que c'est presque bientôt l'été.
Oui, profitez de...
Il fait presque beau.
Profitez de la chaleur et de la pluie.
Il y a peut-être un peu d'orage. Bon, allez, c'est bon. Allez, tout va bien. On écoute Captain Parade, un petit temps calme, et nous, on se dit à très vite.
Au revoir, monsieur Simon.
J'en ai marre.
Ça va, Sophie ?
Oh là là, les gamins en classe, je sais pas ce qu'ils avaient, mais ils m'ont épuisée.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ils étaient excités comme pas possible, on pouvait rien en tirer.
Et ils ont fait quoi encore ?
Oh ben rien, mais vas-y que je papote et vas-y que je gigote.
Et maîtresse, en soulignant quelle couleur ? Et je peux aller aux toilettes ?
C'était horrible.
Non mais tu connais pas le temps calme ?
Bah non.
Et tu vas voir, ça met tout le monde d'accord. T'écoutes Captain Parade, il le chante très bien et les enfants comprennent direct.
Hé, Lucas, tu poses ça tout de suite !
Temps calme, temps calme, temps doux, temps mou, temps calme, temps calme, temps doux, temps faible, temps fort, temps fort. Tant calme, tant doux, tant nul.